Distor News.
Nous sommes le 8 février 2023, mon nom est Colette, en compagnie de Distoman. Bienvenue à cette édition francophone des Disto News qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast et en diffusion continue sur Twitter. Notre équipe à la recherche est composée de Panda Résistance Patriote au Saguenay et de Marie-Yves à Montréal. Voici ce qui a retenu l'attention de notre équipe aujourd'hui. Les activités accrues des plateformes ISR de l'OTAN près de Kaliningrad semblent nous indiquer que les choses se mettent à bouger de l'autre côté de la frontière en Russie et au Bélarus. Les prochains jours risquent d'être intéressants. Place au patron.
Visite surprise à Londres aujourd'hui. Zelensky a remercié la Grande-Bretagne pour le soutien militaire solide qu'elle apporte à son pays, mais a formulé quand même une demande sans détour. Oui! Ils veulent des avions de combat, une mesure à laquelle le gouvernement britannique s'est jusqu'à présent opposé, parce qu'ils connaissent bien entendu les conséquences que cela pourra avoir avec la Russie. Alors Zelensky a dit « J'en appelle à vous » et au monde entier avec des mots simples mais très importants. Lors d'une session conjointe du Parlement, sous l'ancien toit colombage de Westminster Hall, il a dit « Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. » Quand même, hein, le gars chie pas de marde. Zelensky a reçu un accueil de héros. En ce jour chargé de symboles à son arrivée à l'aéroport de Stansted, il a été accueilli par une accolade du premier ministre, Rishi Sunak, l'enfant chéri du Forum économique mondial, et il s'est entretenu avec lui au 10 Downing Street. Après son discours au Parlement, il a eu une audience avec nul autre que le roi Charles III au palais de Buckingham, quand même. La décision de Zelensky de se rendre en Grande-Bretagne, sous le frais des contribuables britanniques, bien entendu, à bord d'un C-17 britannique, son deuxième voyage en dehors de l'Ukraine depuis l'invasion russe de l'année dernière, témoigne du rôle de ce pays en tant que l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'Ukraine, ainsi que son soutien public indéfectible de M. Sunak et de ses deux prédécesseurs, qui étaient Liz Truss et, bien entendu, le chevelu Boris Johnson. Zelensky va se rendre à Paris plus tard dans la journée aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors, il est ensuite attendu à Bruxelles demain pour des réunions avec des dirigeants de l'Union européenne. Et il faut, bien entendu, on va se dire qu'il va rencontrer des gens de l'OTAN, ça c'est clair. Alors, Londres est aux côtés de Kiev dès le premier jour, a déclaré Zelensky sous un tonnerre d'applaudissements des parlementaires réunis dans la salle. Il a ajouté « Nous savons que la liberté va gagner ». C'est un geste dramatique qui fait office d'argument de vente parce que Zelensky a présenté au président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, le casque qui, selon le président, appartenait à l'un des as de l'aviation ukrainienne. Un message était écrit dessus. « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger et la gagner. » C'est assez manipulateur, alors que la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, ont jusqu'à présent poussé les demandes de l'Ukraine pour des avions de combat. Le premier ministre britannique Sunak a annoncé que les pilotes britanniques commenceraient à former leurs homologues ukrainiens au pilotage des avions de combat de l'OTAN. Cela suggère que la Grande-Bretagne ouvre au moins la porte à la fourniture d'avions dans l'avenir. La Grande-Bretagne envoie à l'Ukraine 14 chars de combat Challenger 2, alors que l'artillerie est également du package, ainsi que des milliers de munitions. Cette promesse faite-là, il y a quelques semaines, visant en partie à inciter l'Allemagne et les Américains réticents à suivre le mouvement. Ces deux gouvernements-là ont maintenant également promis d'envoyer des chars de combat, ce qui, selon les analystes militaires, ça va renforcer la capacité de l'Ukraine à reprendre le territoire occupé par les Russes face à une offensive qui est attendue au printemps. Mais là, ça se met à bouger le long de la frontière avec Kaliningrad. Il y a énormément de plateformes ISR de l'OTAN qui essayent d'aller chercher des données à l'intérieur du territoire russe. Et ça, c'est peut-être une indication comme quoi que les choses vont se mettre à bouger beaucoup plus vite que prévu. Il faut se rappeler que le gouvernement britannique et l'administration Biden craignent que l'envoi d'avions de combat n'aggrave la confrontation entre l'OTAN et la Russie. Boris Johnson, qui est en visite à Washington la semaine dernière, a appelé l'Occident à faire tout ce qu'il faut, y compris fournir des avions de chasse pour permettre à l'Ukraine de repousser les troupes russes. plusieurs reprises, avant et pendant la guerre qui dure depuis plus d'un an, la Grande-Bretagne s'est placée à l'avant-garde du soutien militaire occidental à l'Ukraine au début du conflit, a indiqué Zelensky. Des livraisons de missiles anti-chars britanniques ont permis aux troupes ukrainiennes de stopper l'avancée de l'armée russe. La Grande-Bretagne a déjà fourni 10 000 soldats ukrainiens. Hein? Ben oui, ils ont formé tous ces gens-là, y compris des soldats qui sont arrivés la semaine dernière pour apprendre à utiliser les chars britanniques Challenger 2. En plus des pilotes, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle commencerait à former des Marines ukrainiens quand même. Dans une déclaration, Rishi Sunak a déclaré que l'extension de la formation des Marines et des pilotes d'avions de chasse souligne l'engagement à ne pas fournir uniquement des équipements militaires à court terme, mais un engagement à long terme et d'être aux côtés de l'Ukraine pour les années à venir. Tout ça, bien entendu, dans une situation explosive sur le terrain avec cette offensive russe qui commence à se pointer le bout du nez à l'horizon. De retour à Colette.
Le renseignement aux uns joue un rôle essentiel puisqu'elle donne à la communauté dans le domaine de la sécurité nationale un aperçu et un contexte à un coût relativement faible. L'OSIN vient d'informations ouvertes au public, incluant l'Internet. Les médias de masse, par exemple la télévision, la radio, les journaux et les magazines, le renseignement de sources ouvertes, OSIN, fait rapidement évoluer la façon dont les mouvements des marines sont exposés à l'ennemi. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie est la première grande guerre de l'ère de l'OSIN. L'OSIN en soi n'est pas nouveau. Mais la façon dont il imprègne les conflits et capte l'attention du monde entier l'est. Elle crée de nouvelles opportunités et pose de nouveaux défis. L'une de ces facettes est que, contrairement à la plupart des formes traditionnelles de renseignement, il est largement accessible au grand public. Toute personne disposant d'une connexion Internet peut y participer, sciemment ou non, en tant que source ou analyste. Qu'on le veuille ou non, la démocratisation du renseignement va certainement façonner la guerre. On peut dire qu'elle l'a déjà fait. Dans une large mesure, cela joue à l'avantage de l'Ukraine. Mais l'OSIN est à double tranchant et les Russes en profiteront réellement. Une vague communauté OSIN qui s'identifie elle-même s'est développée en ligne. Naturellement, ces observateurs OSIN sont un mélange de compétences, de motivation et d'attitude. Ils génèrent beaucoup de bruit, une certaine nuisance pour les planificateurs militaires et, dans certains cas, une valeur ajoutée. Les professionnels s'empresseront de souligner qu'une grande partie du soi-disant OSIN en ligne n'est pas open source ou n'est pas du renseignement. Quoi qu'il en soit, une grande partie l'est. Et les arguments sur les définitions pourraient être discutables. La prolifération de l'expertise OSIN est une nouvelle réalité. Pour ce qui est de la valeur ajoutée, elle peut contribuer à alimenter les articles des médias qui, à leur tour, façonne la conscience et l'opinion du public. Il peut s'agir de montrer les préparatifs avant l'invasion, de documenter et de prouver les crimes de guerre, et de montrer les dommages causés aux cibles clés après les frappes annoncées. Il ne serait pas approprié de détailler certains des aspects de ce jeu pour le moment. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre la facilité d'acquisition d'une information et sa valeur pour le renseignement. Ainsi, certaines sources, même évidentes ou facilement accessibles, doivent être protégées. Mais certains exemples peuvent être explorés pour illustrer des points plus généraux. Dans les semaines et les jours qui ont précédé le naufrage du croiseur de classe Slava, le Moskva, les 13 et 14 avril, l'OSIN a montré les modes opératoires généraux et les emplacements du navire de guerre. Ces sources comprenaient, sans s'y limiter, des images satellites publiées par l'Agence spatiale européenne, ESA. Leur satellite d'imagerie Sentinel-1 saoudien, radar à ouverture synthétique, et Sentinel-2 se sont avérés utiles malgré leurs limites. Plus important encore, n'importe qui peut les visualiser et trouver un navire de guerre ou un réseau de tranchées intéressant. N'importe qui peut étudier le port de Sébastopol et repérer les enclos à dauphins, ou les modifications apportées au barrage défensif. L'imagerie satellitaire à code source ouvert de Sentinel, Landsat, etc. est souvent mélangée à de l'imagerie commerciale. Cette pratique est tellement répandue en ligne que la distinction est devenue floue. Et l'imagerie commerciale est généralement de meilleure qualité, ce qui permet des observations plus détaillées. Des personnes qui n'avaient qu'un intérêt passager pour les questions navales avant la guerre identifient désormais les navires de guerre russes dans les ports et publient régulièrement les résultats. Une autre forme populaire d'Osin qui occupe le devant de la scène est le renseignement sur les médias sociaux. Il s'agit de collecter et d'analyser les publications sur les médias sociaux du personnel militaire ou de son entourage afin d'en tirer des renseignements. En réalité, aucune armée n'est à l'abri d'une telle utilisation contre elle. Malgré les tentatives de contrôle, le gouvernement russe a bloqué l'accès à Facebook et Twitter en mars, la guerre a généré un énorme volume de ces données. À plusieurs reprises, les forces russes ont mis en ligne des informations sensibles. En particulier le groupe Wagner, les Tchétchènes et les troupes nouvellement mobilisées. Des photos occasionnelles de leur quartier ou de leur travail dans un dépôt de munitions peuvent être géolocalisées. Il y a eu plusieurs occasions où des pertes massives ont été publiquement attribuées à cela. Et il y en a sûrement eu beaucoup d'autres où le public ignore comment les renseignements ont été obtenus. Les forces armées russes, y compris la marine, sont conscientes depuis plusieurs années de la menace que représentent les médias sociaux pour la sécurité opérationnelle. Une série d'affiches largement diffusées met en garde les soldats contre la divulgation de leur position sur les médias sociaux. Elles sont analogues aux affiches emblématiques Loose Lips Sink Ships de la Seconde Guerre mondiale. Des sources ouvertes ont permis d'observer qu'elles étaient affichées bien en évidence à bord des sous-marins russes. Les tentatives de la Russie de limiter leurs renseignements sur les médias sociaux et d'autres formes d'Ousin ont eu un impact limité. Les sources Ousin ont eu tendance à être assez résistantes aux tentatives gouvernementales de les fermer. Bien que ces efforts aient parfois causé de la frustration parmi les observateurs de l'Ousin, des sources de remplacement ont été trouvées. Dans de nombreux cas, les personnes qui partagent les messages, les images ou les vidéos doivent savoir qu'ils contiennent un certain degré d'informations sensibles. Des vidéos d'explosions, d'avions, de trains chargés de chars, etc. Mais le désir de partager, d'être vu comme étant au courant, ou d'obtenir des clics et des likes, semble trop fort pour résister. Et il est peu probable qu'ils se rendent compte qu'avec une bonne analyse, cela pourrait donner un avantage à l'autre partie. Les publications indiscrètes sur les médias sociaux ont permis aux observateurs de l'Ousin d'établir un décompte détaillé des pertes militaires. Ces chiffres sont probablement bien meilleurs que les chiffres officiels et certainement dans une mesure qui n'a pas été possible lors des précédentes guerres majeures. Sur le front naval, cela a également permis aux observateurs de réfuter les pertes annoncées. Il y a eu plusieurs cas de naufrage souhaité, où des rumeurs ou des rapports ont fait état de l'endommagement ou du naufrage de certains navires de guerre russes. L'Ousin a toutefois permis de dissiper rapidement le brouillard de la guerre. La marine russe connaît la procédure et tente de limiter son exposition à l'Ousin. Pourtant, comme chaque élément de toute force armée, elle est constituée d'êtres humains. La nature humaine est le maillon faible du renseignement, et peut-être le plus aigu dans le domaine de l'Ousin. L'absence d'action majeure de la flotte russe de la mer Noire, bien qu'elle soit probablement le résultat de nombreux facteurs, pourrait bien être facilitée par des inquiétudes quant à la capacité de sa force à être suivie ouvertement. L'Ousin consiste souvent à exploiter les indiscrétions des autres, et aucune marine n'est à l'abri. Reste à savoir si et comment la Russie pourra s'adapter pleinement pour atténuer l'impact de l'Ousin sur ses opérations en Ukraine. Au fur et à mesure que la guerre progresse, de nombreux autres exemples spécifiques de l'impact de l'Ousin sur les opérations militaires en mer pourraient être discutés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre bulletin de nouvelles audio. Nous vous invitons à consulter une multitude de vidéos, de textes et de contenus disponibles sur notre site internetdisto.ca et n'oubliez pas les capsules vidéo de Distoman qui sont diffusées régulièrement sur YouTube et Twitter. Bisous et bonne journée.
Surveillez la sortie du quatrième épisode de VEF World le 15 février 2023 disponible sur toutes les plateformes de podcast et en diffusion continue sur Twitter.
Watch for the release of the fourth episode of our audiobook, VEF World, on February 15, 2023. Available on all podcast platforms and streaming on Twitter.
WEF World Episode 4, the Fourth World War begins.
WEF World Episode 4, der vierte Weltkrieg beginnt.
Mondo WEF Episodio 4, inizia la quarta guerra mondiale.
WEF World Episode 4, la quatrième guerre mondiale commence.
Master Armand, Master Armand.
So fucking shoot him.
I don't got tone.
Got the second one.
I got the second one on the nose right now.
Hey, I'm high cover on you.
Get a fuck. Get a lock him up.
Stop.
Lock him up.
Man, shoot him. God, shoot him.
I can't. I have a fucking phone.
Allie,